votre époque, vous vivez votre époque en ce moment. Vous allez en vivre d'autres encore, vous avez longtemps. Que regretterez-vous plus tard de toutes vos époques? Qu'est-ce qu'on regrette? Moi, ce que je regrette, voulez-vous que je vous le dise? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse qu'on regrette. Parce que toutes les époques ont leur le bien et le mal. Et finalement, quand on arrive comme moi dans le grand âge, c'est la jeunesse qui manque. Voilà. C'est toute la richesse qu'on a. La jeunesse, c'est une richesse que vous avez. Et profitez-en.
Mercredi 17 décembre, nous sommes aujourd'hui à l'EHPAD du Petit Bois.
Le Petit Bois,
à Pradines. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, une émission spéciale puisqu'on est au cœur de l'établissement. On va faire comme ça, on va écouter comme ça des capsules sonores qui ont été faites par trois résidentes, autant que je sache. Et c'était fait par notre ami Gustave Acapo. Bonjour Gustave.
Bonjour Gilles.
Merci beaucoup d'être avec nous Gustave. Comment est née cette idée?
Cette idée est une idée de la Fabrique Francophone, donc qui est une structure qui existe à Cahors, qui accueille des résidents, des artistes, qui montent un certain nombre de projets sur le département et ailleurs aussi, avec le but aussi de faire se rencontrer les artistes, les résidents, les gens habitants, les territoires. Et là, l'idée est née aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a une mémoire chez les personnes âgées, des savoir-faire, des recettes de cuisine, plein de choses qui disparaissent au fil du temps. Et aussi, par rapport à l'évolution de nos sociétés occidentales, on n'est plus dans la figure de l'aîné qui est à la maison et dont on peut prendre soin jusqu'à la fin de sa vie. On a plutôt des maisons comme les EHPAD qui sont déléguées à et qui a un besoin aussi de artistique, en tout cas pour nous puisque c'est notre domaine d'intervention, c'est l'art, de pouvoir pouvoir amener de l'art dans les maisons de retraite, de rencontrer les gens et de pouvoir au fil des discussions construire avec les résidents des EHPAD, des projets à destination d'une écoute radiophonique.
Alors, je le disais dans le lancement, il s'agit bien sûr de capsules sonores. Alors, dans notre jargon à nous, à la radio, une capsule sonore, c'est un enregistrement audio. Tu en as fait plusieurs, tu as pris trois résidentes, et puis, effectivement, après, tu en as fait un montage. Comment as-tu choisi tes résidents?
En fait, j'aurais bien aimé ne pas te contredire parce qu'en fait, je me prends tous les lauriers, mais en fait non, je suis qu'une des petites mains de cette aventure qui est très collective, puisqu'il y a eu d'autres personnes qui sont intervenues sur le projet. Moi, ma seule contribution a été de discuter avec donc les trois des résidentes de l'EHPAD ici, et après à partir de ces discussions, des enregistrements, de leurs témoignages, de leurs réactions sur diverses choses, de construire une fiction. Donc là, j'ai pris en charge la construction de la fiction. Sinon, le montage, c'est pas
d'accord. Mais lorsque tu les as rencontrés, il y a une confiance qui s'installe.
Oui.
Il faut absolument la mettre en place, cette confiance.
Elle est mise en place aussi grâce à la structure, parce que je suis pas seul là-dessus, que c'est un travail même préparatoire avant les rencontres entre Cédric Brossard et les personnes en charge des interventions pluridisciplinaires ici. D'accord. Au sein de l'établissement. Donc il y a aussi ça se prépare en amont, c'est ce terrain de confiance.
Alors on en est au tout début, hein. Ça va commencer dans peu de temps, les gens arrivent peu à peu. On va avoir une série de capsules, c'est comme ça que ça se présente?
C'est ça. En fait, c'est une fiction radiophonique qui est en plusieurs épisodes. Donc on va écouter ces épisodes-là.
D'accord. Les épisodes sont un petit peu différents selon les résidentes ou c'est à peu près, entre guillemets, la même longueur d'onde pour chaque résidente?
C'est pas exactement la même longueur d'onde. Et moi, j'ai essayé d'en faire une histoire commune. Donc, il y a un mélange de fiction. Il y a un fil conducteur.
Toutes les époques sont moches et belles. On les traverse. Tout commence par un cri.
Allô? 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 Il y a quelqu'un dans le bureau? Allô?
voix grêle, s'échappant du corps frêle de la vieille dame, retentit comme un au secours, lancé du fond d'un bois englouti dans la nuit noire. Nous sommes pourtant le matin, non dans la forêt, mais à la maison de retraite de mamie Anne, ma mamie adorée.
Ah ok, intéressant ça.
Ouais, ouais, il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur qu'on suit d'un épisode à l'autre et avec cette chose-là qu'on a dans les séries, dans le feuilleton, d'arriver toujours à la fin d'une capsule avec l'envie de un petit élément qui fait qu'on a envie de voir ce qui arrive.
Le fil conducteur qui a eu un titre, j'imagine.
Oui, le titre est né de la parole d'une des résidentes qui a dit cette phrase merveilleuse parce qu'on lui posait la question, on parlait de elle, donc elle a 95 ans, elle a traversé le siècle et on parlait de la vie d'avant, de maintenant, comment c'est, souvent on dit la vie c'était mieux avant ou etc. ou pas le contraire et tout ça, puis elle a traversé et la guerre et les 30 glorieuses, donc il y a plein de choses et elle a dit cette chose, vous savez, au fond toutes les époques sont belles, les manches on les traverse.
Ah oui, c'est si vrai.
Ouais. C'est vrai.
Qu'en ce moment en France, on est bien servi.
Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous le verrez dans les rencontres, il y a parce que c'était marquant aussi dans leur parcours de vie, on est revenu sur les périodes de guerre et d'être là aujourd'hui à cette période où encore la guerre se profile à l'horizon. Donc là, ça nous mettait dans un état où on se dit quoi. Et il a dit cette phrase là et je trouve qu'elle est elle est forte, elle donne en tout cas de l'énergie pour traverser.
Ça a duré combien de temps là ce travail? Sur plusieurs mois, j'imagine.
Ça s'est fait en plusieurs étapes. À chaque fois de 2 semaines, je dirais, en termes de rencontres, ça fait 2 fois 2 semaines, je crois.
Donc là, effectivement, on touche la mémoire vivante de personnes qui sont encore là, qui sont dans toutes leurs capacités aujourd'hui de parler, de réfléchir. Ça va être assez émouvant aussi pour toi de récolter ces informations quand même.
C'est très émouvant. Ah oui. C'est très émouvant. Je pense que je sais pas comment le dire, mais c'est.
Je voulais dire, tu as laissé une liberté de parole ou tu as les a guidés vers quelque chose?
Ah non, justement, le but du projet, c'est justement de ne pas faire à la place, surtout ne pas faire à leur place, ne pas les instrumentaliser. Il s'agit pas de recueillir les témoignages et de s'en servir à notre sauce, mais vraiment de co-construire avec les personnes. Donc ça part de libre discussion et c'est au fil de ces discussions qu'il y a quelque chose, une matière qui se consolide. Et à partir de cette matière-là, évidemment, moi j'ai un rôle en tant que écrivant, de savoir quel fil on peut tirer, mais ça va être plus des un cadre que j'essaie je dirais comme un capitaine de bateau qui peut rien faire sans son équipe, mais qui va diriger, mais ces directions-là, finalement, elles se...
Alors, tu vois, Gustave, nous, on se découvre, on se connaissait pas. Oui. Depuis un moment, je remarque que naturellement, je te tutoie.
Oui.
Peut-être que t'es sympathique, c'est sûrement ça. Mais je pense que cette sympathie, t'as dû la transmettre comme ça aux résidents et ils se sont livrés. Ils ont oublié le micro de ce fait-là, non?
Oui, oui, oui. En fait, il faut, vous parliez tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure, tu vois.
Je suis pas assez sympa.
d'un climat de confiance, effectivement, c'est quelque chose qui s'établit comme ça. C'est vrai que tous les écrivains, tous les comédiens ne sont pas à l'aise avec des interventions artistiques. Mais moi, c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui est essentiel même dans mon écriture. J'aime rencontrer les gens et parce que c'est aussi à travers ces rencontres-là que naît le désir d'écrire. C'est rare que je sois là et me dis tiens, il se passe telle histoire ou une chose comme ça et j'ai envie d'écrire. C'est plutôt souvent à partir de rencontres, qu'elles soient de toute façon que ça se passe bien ou mal dans tous les cas, c'est pas ça, mais ça c'est ça qui m'encourage et puis voilà, quand on arrive dans un cadre comme celui-ci avec des personnes qui sont aussi touchantes, aussi fortes et aussi belles, oui, ça.
Un auteur est avant tout quelqu'un qui écoute.
Oui, qui écoute beaucoup.
Ah ouais. 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 Est-ce qu'il y a une capsule sonore, une résidente qui t'a comment dirais-je ? J'allais dire demander plus de travail. C'est pas un travail, plus d'écoute que les autres. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a capté, qui t'a retenu ton attention encore plus que les deux autres ?
Non, je dirais que c'est à des endroits. Et pour le coup, je trouve que c'est une des choses qui arrive dans les EHPAD. Je me suis dit que les trois, peut-être dans la vie, peut-être certaines personnes ne se seraient pas croisées naturellement. Ouais. Mais le fait qu'elles habitent ici et qu'il y a des amitiés qui peuvent même parfois paraître improbables, qui se naît, quelles que soient nos opinions politiques, etc., etc. Ça a demandé pour moi d'être à l'écoute à des endroits différents, suivant les personnalités de chacun. Mais ça fait partie du job.
Alors, je connais pas le fil conducteur, je connais pas le détail, mais est-ce que, quelque part, ils se sont confiés un petit peu sur l'actualité d'aujourd'hui ?
Pas vraiment. C'est pas quelque chose qui est... Le fil n'est pas allé...
Jusque-là ?
Enfin, dans ce sens-là.
D'accord, ok. C'était volontaire, quand même, hein, de pas vouloir aller jusque-là, peut-être.
Non, pas vraiment. Enfin, je sais pas. On mène le projet aujourd'hui à Cactus et...
Je voulais faire allusion à la Seconde Guerre mondiale, au racisme de l'époque.
Ouais.
Non, moi, vous savez, j'étais jeune, la guerre d'Indochine, pour moi, c'était loin. Je venais de vivre la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, oui. Puisque là, on voyait bien, parce qu'on souffrait, on était occupés.
Oui, oui.
Alors, moi, mes parents, on écoutait la radio, tout ça, Radio Londres, mon frère est déporté, tout ça. Oui. Là... Voilà, mais après, je me suis mariée, Guerre d'Indochine est arrivée après.
Ouais, ouais.
Mais là, après, j'étais heureuse, j'étais jeune,
ouais.
J'étais fiancée, mais elle était partie quand même là-bas, en Indochine. La guerre, c'est pas très beau. Pourquoi on se bat ? Pourquoi l'homme s'est toujours battu ?
Moi, j'étais seule, avec ma mère. Pour ça que je sortais... Tranquille, moi, avec ma maman. Je savais que je m'en irais pas, moi, alors. Comment on faisait mettre des tangos, tout ça. Des valses.
Dans les questions, on en a parlé.
L'histoire se répète, quoi. C'est fou, quoi.
Ouais. Oui, c'est...
Les Juifs, entre autres, enfin, il n'y a pas qu'eux, mais aussi, en ce moment, qui sont vraiment, j'allais dire, massacrés. Oui, c'est le terme, en fait. Et ils l'ont été il y a maintenant plus de 60 ans.
Ouais.
Est-ce que, quelque part, ils ont parlé un peu de ça ou pas trop? Ils ont évolué?
Non, on a parlé, parce qu'on parlait de l'Ukraine à un moment donné, on en a parlé, de guerre. Enfin, de toute façon, il y a l'actualité qui est très présente, hein, même en termes de racisme et tout ça. Donc, c'est d'ailleurs cette phrase est venue parce qu'il y avait aussi le regard par rapport à l'actualité. Parce qu'en gros, il y a une des résidentes qui disait, finalement, elle disait au début, vous savez, moi j'en ai vécu des choses. Finalement, qu'est-ce qu'on regrette? La jeunesse. On regrette la jeunesse. Et après, elle a dit, je vais quitter un monde qui est un peu moche. Et puis non, en fait, non. Toutes les époques sont moches et belles. On les traverse.
Votre époque, vous vivez votre époque en ce moment. Vous allez en vivre d'autres encore. Vous avez longtemps. Que regretterez-vous plus tard de toutes vos époques? Qu'est-ce qu'on regrette? Moi, ce que je regrette, voulez-vous que je vous le dise, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qu'on regrette. Parce que toutes les époques ont le bien et le mal. Et finalement, quand on arrive comme moi dans le grand âge, c'est la jeunesse qui manque. Voilà. C'est toute la richesse qu'on a. La jeunesse, c'est une richesse que vous avez. Et profitez-en. Profitez-en. Chaque époque est triste, est belle et triste, parce qu'il y a la guerre, encore, ça ne va pas. Toutes les époques sont belles et moches, mais on les traverse, vous en traverserez d'autres. Moi j'en ai beaucoup traversé, puis finalement, qu'est-ce qu'on regrette? J'étais jeune. Charles Aznavour a chanté une chanson, quand on tient entre ses mains cette richesse, d'avoir 20 ans et l'avenir plein de promesses.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire. En jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-elles à présent? À présent, mes 20 ans.
Quand on tient entre ses mains cette richesse d'avoir 20 ans et l'avenir plein de promesses, c'est pas beau? C'est Aznavour qui chante ça. Je vais vous faire pleurer.
Et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort là-dessus. Je suis un optimiste vivant. C'est-à-dire que l'histoire, l'humanité a fait des conneries, l'humanité a fait des choses merveilleuses, mais on est très jeune et on peut pas baisser les bras.
Ce qui est intéressant dans cette réponse-là,
ouais,
c'est que c'est pas préparé en fait.
Ouais.
Elle l'a réfléchi en te répondant à la question.
C'est ça.
Fait.
C'est ça.
Ça, c'est intéressant.
C'est
spontané.
C'est spontané.
Ouais,
c'est ça qui donne de la gnaque pour continuer.
Comment vois-tu l'importance entre le son et la voix dans la transmission comme ça des mémoires? Je pense que les deux cohabitent bien, non? Le son et la voix.
C'est un autre personnage. C'est ça. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un en face, qu'on se construit autrement. Et la voix, ça apporte, je pense que ça active d'autres connexions au niveau de la tête. Comme quand on lit un livre aussi, on se projette, on crée notre personnage. Et après, quand on va voir le film, parfois on se dit ah ouais, moi je l'aurais pas imaginé comme ça. Je pense que la voix aussi a. Et puis la voix, finalement, c'est la première chose. Hein, le bébé dans le ventre de sa maman, il la connaît pas sa maman, mais la première chose qu'il va entendre, ça va être la voix.
Est-ce que les résidentes qui sont arrivées là, je pense,
ouais,
elles ont jamais entendu les capsules encore? Elles se sont pas entendues?
Non.
Elles vont le découvrir maintenant?
Oui, c'est ça.
Ça sera intéressant de voir leur réaction tout à l'heure, en tout cas.
Ouais.
Merci beaucoup, Gustave.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
Retour ici à l'EHPAD de Pradines.
Résidence du Petit Bois.
La résidence Petit Bois. Il faut s'approcher un petit peu, c'est Sandra votre prénom.
Oui, c'est ça.
Sandra, vous faites tout ici, j'ai l'impression, vous, non?
Je suis animatrice ici depuis 20 ans.
Animatrice, ça veut dire quoi concrètement? On fait on s'occupe de la danse, on s'occupe de la lecture, on fait quoi?
C'est un rôle polyvalent.
Ouais, c'est-à-dire.
On a un couteau suisse.
Ouais.
On fait de tout, on les stimule, on fait des sorties socio-culturelles.
On s'occupe pas des soins, on fait
que
tout ce qui est culturel en fait.
C'est du soin mental.
Ils sont combien ici? Combien de résidents?
60 résidents. On
60.
En a 45 secteurs ouverts et 15 côtés fermés.
D'accord. Bon, je dis pas que c'est un métier facile, loin de là, on le sait tous. C'est peut-être pas. C'est un peu.
Non, ça se dit pas.
Ça se dit pas. Ils vont être réunis ici la plupart, pas tous, j'imagine.
Ouais, ceux qui le souhaitent, ceux qui peuvent.
Ceux qui peuvent, bien sûr. Je vois beaucoup de dames, il n'y a pas beaucoup de monsieur ici?
Et on a très peu de monsieur.
Ah,
à
donc...
croire que les messieurs ne vieillissent pas.
On est en forme, alors. Il va y avoir donc cette série de capsules sonores.
Oui.
Vous avez participé, vous, quelque part, de Le Monde de Presse?
Oui. Oui, oui, on a choisi, on a sélectionné avec ma collègue Ludivine, qui est aussi animatrice, hein, les résidents qui participaient au projet.
Oui.
Voilà. Et puis après, on les a, voilà, on a organisé à chaque fois qu'ils devaient venir pour les enregistrer, les questionner. Donc, on programmait un peu les séances. Et puis, voilà, on était là de temps en temps, quoi.
Mais comment vous avez fait pour leur poser la question? Est-ce que tu veux bien répondre à d'autres questions?
Oui, ben, clairement.
Comme ça?
Ben, tout à fait, comme vous et moi.
Et ça s'est fait naturellement comme
ça?
Oui,
voilà. Ceux qui le souhaitaient participer ont participé. Ceux qui n'ont pas voulu n'ont pas fait. Ouais. De toute façon, ici, l'animation, ça reste un choix et c'est pas une obligation.
Vous étiez près d'elles pour les rassurer, peut-être?
On leur a expliqué le projet ensemble et on a demandé qui voulait participer. Il y en a qui ont levé la main, qui ont demandé plus de précision. Et sur les cinq qu'on avait choisis, trois ont finalement participé au projet.
Et elles en ont parlé entre elles ou pas?
Ouais. Oui, ah, beaucoup. Ouais. Bah, ici, on est pour échanger, partager. Voilà, c'est vraiment le maître mot d'ici. On est une petite famille.
Est-ce que la famille a été mise au courant avant ou après? Je sais pas.
Alors plutôt après.
Après.
Les résidents ont choisi parce que les personnes qu'on a choisies étaient tout à fait capables de prendre la décision. Et après, on en a parlé quand même aux familles. Mais voilà, après, les familles sont toujours au courant de tout en principe.
Et donc aujourd'hui, elles sont curieuses de découvrir ce que ça donne.
Alors, on a déjà été invité sur les quais. Où on est allé écouter un petit peu où Cédric nous a invité avec le thé, les petits gâteaux.
Alors, Cédric Brossard, bien sûr, qui est le coordinateur de la Fabrique francophone.
Tout à fait. Et du coup, on a passé un après-midi là-bas déjà, où il nous a fait pré-écouter un petit peu la finition du projet. Elles ont plutôt trouvé ça super. Vraiment, on a eu un super échange. Donc là, je pense qu'avec le groupe, ça va être encore mieux.
Ben voilà, une très belle initiative, une belle action en tout cas. Merci beaucoup, Sandra.
Oui, c'est ça.
Merci, Sandra.
Merci.
CFM Radio, 40 ans de liberté, 40 ans d'expression.
La séance vient de s'achever ici à l'EHPAD. À l'EHPAD de la résidence du Petit Bois à Pradines, avec un événement mémorable, franchement, qu'il faut absolument faire savoir. Cet événement a un titre, ce titre, il est porteur, puisque toutes les époques sont belles, mais aussi sont moches, et l'important, c'est de les traverser. On les a traversées cet après-midi, c'est à cette époque, avec beaucoup d'émotions, avec trois résidentes qui nous ont, pas raconté, mais avec des capsules comme ça, qui ont suivi un fil conducteur, et qui nous ont fait voyager à travers le temps. Il y avait beaucoup d'émotions. On est avec toi, Cédric Brossard, qui est le coordinateur de la Fabrique francophone, qui est aussi au départ de tout ça. Bonjour Cédric.
Bonjour Gilles.
Merci d'être avec nous Cédric. Toi aussi t'es ému j'imagine. Même
Ah bah oui, très. Et c'est la deuxième fois qu'on écoute ensemble, collectivement, et puis à chaque fois c'est toujours la même émotion qui reste coincée au fond de la gorge.
Oui c'est vrai, et surtout que moi je reste très très ému par la conclusion.
Oui.
Qui est très forte. Mm-mm. Et c'est pas du tout préparé. Je crois que de mémoire, la dame a 94 ans, je crois.
C'est ça.
94 ans, hein, c'est ça. Et elle raconte ça avec un naturel. Alors, je vais pas vous le dire là parce que vous allez le découvrir. Enfin, vous l'avez découvert tout à l'heure puisque l'émission s'achève. Mais c'est très, très émouvant. Ça remue les tripes. Est-ce que la mémoire est un moyen, comme ça, à ton avis, de ne pas oublier le passé, mais c'est aussi la mémoire de présager l'avenir, de pas oublier d'où on vient et...
Oui. Moi, je pense, nous, on insiste beaucoup, en fait, sur ce type de projet quand on travaille avec des personnes âgées qui sont en EHPAD, de faire en sorte qu'elles soient pas assignées à ce devoir de mémoire. Donc on ne cherche pas à leur demander à raconter des souvenirs. Mais immanquablement, quand on commence à dialoguer, que la confiance s'installe, les souvenirs viennent, affluent, et quelque part on se retrouve beaucoup plus, non pas à écouter des histoires du passé, mais beaucoup plus à échanger, en fait, à dialoguer. Et oui, en effet, en fait, en laissant la place, on se rend compte que ces personnes ont besoin de transmettre.
D'autant plus que cette résidente, je rappelle qu'elle a quand même 94 ans, qui rappelle que pour elle, la plus belle période de sa vie, en fait, celle qui l'a marquée, celle qui marque toujours son présent dans sa tête, c'est son enfance.
Oui.
C'est beau.
Ah oui,
c'est aussi beau. L'innocence, peut-être aussi, qu'on n'oublie pas, qui reste dans nos mémoires. on vit avec ça, avec toutes nos blessures, parce que dans la vie, on a des blessures, surtout que cette dame-là a traversé des époques très dures. Aujourd'hui, elle vit une époque un peu plus calme, heureusement, dans un établissement qui fait plein de choses pour la culture. Bravo, hein, toi, en tout cas, parce que tu as raison, la culture ne s'arrête pas en dehors des EHPAD, mais rentre dans les EHPAD. Oui. J'ai aimé ton discours là-dessus. Faut que tu nous en dises plus encore.
Ben, nous, ce qu'on essaye de défendre à la Fabrique francophone, c'est ce que je pourrais appeler une culture processus plutôt qu'une culture catalogue. Je m'explique, c'est que aujourd'hui en France, avec ce ministère de la culture qui depuis Malraux a globalement une mission qui est celle de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité. Mais ça, ça interroge beaucoup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est obligé de se poser la question, d'accord, qu'est-ce qu'une œuvre capitale de l'humanité? Pour qui est-ce qu'elle est capitale? Qui décide de ce qui est œuvre capitale ou non? Et en fait, quelque part, c'est dans les droits culturels, c'est quelque chose qu'on défend énormément. C'est tout un mouvement qui vient depuis l'après-guerre autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec aussi tous les mouvements des indépendances, etc., de dire attention, la culture, ça n'est pas la production d'une œuvre d'art. La culture, c'est l'expression d'une humanité. Et donc, quelque part, ça nous permet aussi de repenser les choses un petit peu différemment. On dit souvent, par exemple, qu'on fait venir la culture en EHPAD ou dans des quartiers ou auprès de personnes qui en sont éloignées. Mais en fait, personne n'est éloigné de la culture. On est éloigné de propositions artistiques. On est éloigné d'une offre culturelle officielle. Mais on n'est jamais éloigné de la culture. En fait, une personne éloignée de la culture ne serait pas un être humain. La culture, c'est ce qui nous permet d'exprimer notre humanité, de rentrer en relation avec l'autre. Et finalement, on se rend compte dans un projet comme celui-là, en EHPAD, qu'on est dans une réciprocité, dans un échange. On n'est pas en train, nous, d'amener la culture, en fait, bien au contraire.
Et j'ai appris que donc ce projet culturel va se poursuivre. Il se poursuit actuellement, là, et ça se prépare.
Actuellement, on était ce matin à Catus. Et en fait, là, depuis 2 semaines, on alterne, on fait une matinée à Préissac, les Balcons du Lot, et l'autre à Catus, à Saint-Astier. Et le lendemain, on inverse matin, après-midi. En fait, simultanément, on travaille à l'écriture, enfin, imaginer des fictions radiophoniques. Ça, c'est vraiment aussi un jeu, c'est-à-dire de dire, c'est pas parce qu'on est en EHPAD qu'on ne peut pas se projeter.
Ce qui est sympa, c'est que tout à l'heure, Gustave nous disait qu'il n'y aura pas le même fil conducteur.
Non, pas du tout.
Donc ça, c'est bien.
Pas du tout. On ne sait même pas exactement. Les fils conducteurs viennent petit à petit au fur et à mesure des échanges, des rencontres. Et c'est quelque chose d'assez important parce que finalement, on se rend compte que dans notre société, à l'heure actuelle, et encore plus dans nos métiers, où on est dépendant d'appels à projets, il faut à tout prix qu'on pense à des finalités, etc., on n'a jamais le temps de prendre le temps. Et là, en fait, sur ce projet, on s'astreint à prendre le temps, on n'a pas d'objectif déjà à atteindre. On sait que l'enjeu, c'est la relation qu'on tisse avec ces personnes, et ça, c'est vraiment magique.
Merci à toi Cédric, voilà une très très belle action. Je suis moi très fier à CFMKO d'être partenaire de la Fabrique francophone.
Nous sommes très fiers de ce partenariat, la Fabrique francophone. Merci CFM.
Merci, bye bye.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
Un événement original qu'on vient de vivre aujourd'hui ici à Pradines, à la résidence du Petit Bois. Original puisque cet événement s'appelle « Toutes les époques sont belles et moches ». Il faut les traverser. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, on peut se poser la question parce qu'on vit une époque plutôt moche en ce moment. Je suis avec monsieur le maire de Pradines. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez, vous également, participé à cet événement qui vient de se terminer. Quand vous avez appris que dans votre commune, on avait l'intention comme ça de réaliser des capsules sonores sur nos anciens, quelle était votre réaction au début ?
Écoutez, ça fait 12 ans que nous sommes en responsabilité au niveau de la mairie de Pradines et ça fait 12 ans qu'on a beaucoup travaillé sur le côté humain de l'EHPAD, le bien-être des résidents. Et c'est vrai que quand j'ai vu que cette émission avait été réalisée ou que ces collectes de témoignages avaient été réalisées, je voulais y participer parce que depuis que je suis élu, l'âge moyen des résidents a fortement augmenté. Et quand on entend des témoignages de personnes qui ont 95, 96 ans, ben c'est touchant. Je trouve que ça crée beaucoup d'émotions. Et je suis très satisfait que c'est été organisé. Et tout le monde s'y est intéressé. Et ça a été un moment très, très convivial.
Moi, j'étais en train de me dire que la mémoire, en fait, c'est un moyen de, bien sûr, de ne pas oublier les choses. Mais c'est aussi un moyen aussi de ne pas réécrire le passé, en fait, grâce à nos anciens qui nous transmettent ce que nous, on n'a pas vécu.
Oui.
Je suis née à Cahors, mes parents étaient à Cahors. J'ai passé toute ma vie à Cahors. Quai de Regourges, au bord de l'Orte. Et j'y ai passé toute ma vie jusqu'à mon mariage, j'avais 23 ans là-bas. C'était bien à cette époque. Les voitures, il n'y avait pas beaucoup. Je jouais à la merelle sur la route. On allait à la pêche, les poissons étaient bons, moi je me prenais oui. L'eau était claire, l'eau était belle. J'ai eu une enfance bien agréable, avec des parents qui n'étaient pas... Mon père était ouvrier, à l'EDF, qui ne s'appelait pas EDF à l'époque. C'était la compagnie du Bourbonnais. Mon père travaillait là, ma mère faisait des ménages. On était bien élevés, ça marchait. Je suis rentrée au centre des impôts, à l'époque, à 17 ans et demi, 18 ans. J'ai fait des cours de scénodactylographie. Parce qu'à l'époque, les filles, c'était surtout la coiffure, la couture ou alors entrer dans les bureaux. Et moi, c'était les bureaux qui m'intéressaient. Enfin, jeune, je lisais beaucoup. On n'avait pas de piscine, on se baignait dans le Lot. Moi, j'ai pas appris. Moi, j'avais peur de l'eau. Mes frères ont appris à nager dans le Lot. Il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Mon père travaillait à l'EDF. Il portait des sacs de charbon. Il disait à ma mère, tu sais, aujourd'hui j'ai des pourboires, on achète un beefsteak pour les petits. Après, j'ai connu l'occupation. La Première Guerre mondiale, je l'ai connue. Mon frère a été déporté à Buchenwald. Il a été arrêté par la Gestapo un 24 février 1944. On a eu les Allemands dans la maison. L'appartement était plein d'Allemands, armés. Il y en avait un qui me maintenait. Ils ont appelé mon frère, parce qu'il était rentré dans la résistance, mon frère. Alors ils en ont arrêté 9, la même nuit, il avait fait les 9 copains, quoi. Ils les ont arrêtés, puis ils sont partis à Buchenwald. Enfin, on ne savait pas où ils étaient. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas que les camps de la mort, ça existait. On a su ça qu'après la libération. Et sur les 9, il y en a 4. Ils étaient tous de Cahors. Hein. Et sur les 9, il y en a 4 qui ne sont pas revenus. Oh, ben, dans les camps de la mort, là-bas, c'était atroce. Il nous a raconté, quand il est arrivé, il nous a comment ça s'est passé là-bas. Mon frère, quand il est revenu, c'était un être complètement décharné, et rasé, une matricule tatouée sur le bras, sur l'avant-bras. Il n'avait plus de nom. On leur faisait l'appel. L'hiver dans la neige, on leur faisait l'appel. Pieds nus dans la neige, il y avait des heures d'appel. Oui, après, il est bien revenu, oui, il est revenu. Il a dit, j'ai survécu pour voir maman, il disait. Il avait 20 ans quand même, il avait 20 ans à Buchenwald. Quand on l'a arrêté, il avait 19 ans.
Oui, effectivement, ce sont des gens qui ont vécu des périodes qu'on croyait totalement oubliées. On a parlé de guerre. Ma génération, on pensait qu'on ne reverrait jamais ça. Aujourd'hui, on commence à être un peu angoissé par tout ce qu'on entend au niveau international. Et d'entendre ces témoignages, ça permet de se situer dans l'histoire longue de notre pays, nos origines, ce qu'ont vécu nos anciens.
Ça pourrait donner des idées à vous, monsieur le maire, peut-être un jour, je ne sais pas, de capter comme ça des capsules sonores de vos concitoyens ici à Pradines, pour ne pas oublier la mémoire de Pradines.
Alors, effectivement, à Pradines, nous avons 34% de personnes qui ont plus de 60 ans. Donc, vous voyez qu'on a pas mal de personnes relativement âgées, qu'on y vieillit plutôt bien, puisqu'on en a beaucoup qui sont à domicile sur ces 34%. Et oui, ça peut être intéressant de refaire vivre l'histoire de cette commune parce qu'elle ne faisait que 700 habitants il y a 57 ans. Maintenant, on est à 3800. Donc effectivement, il y a des témoignages qui pourraient retracer l'histoire longue de notre commune et ce qu'ils ont vécu.
Quand on est un élu comme vous, monsieur le maire, est-ce qu'un maire doit être tourné uniquement vers l'avenir, mais toujours avec un regard sur le passé, j'imagine ?
Écoutez, moi je viens du privé, j'ai été pendant 47 ans dans le privé et j'ai fait toute ma carrière avec une règle simple. Il faut toujours se souvenir d'où on vient, savoir où on est et savoir où on va. Mais pour savoir où on va, on est obligé de s'appuyer sur ce qu'on a vécu et savoir où on en est. On a appliqué cette règle depuis que je m'occupe de cette commune et je pense que c'est une règle qui est assez universelle.
une règle qu'on partage tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le maire.
Avec plaisir.
Merci.
Bonne soirée.
Merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute pour ce moment de partage et de mémoire ici à l'EHPAD, la résidence du Petit Bois à Pradines dans le Lot. Un grand merci aux résidents, résidentes. Je nomme Suzanne, 96 ans, Odette, 91 ans et Patricia, 64 ans. Aux équipes de la Fabrique francophone, au coordinateur Cédric Brossard, également à Gustave Acapo, à Sandra, l'animatrice, et à Monsieur le maire de Pradines, qui ont contribué à faire vivre ce projet si précieux. Ces capsules sonores nous rappellent que chaque voix compte, bien sûr, que chaque histoire est un trésor, et que la transmission entre générations est essentielle pour tisser du lien et nourrir notre humanité. Nous espérons que ce voyage dans les récits d'hier et d'aujourd'hui vous aura touché et inspiré. N'hésitez pas à partager ces histoires, à continuer à écouter et à créer du lien autour de vous. À très bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.